La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est le moment de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag.
Avec une association qui utilise des innovations tournées vers les personnes en situation de handicap, c'est une initiative Elisabeth qui s'appelle My Human Kit.
Oui, My Human Kit, association rennaise créée il y a 5 ans, une sorte d'atelier digital dédié aux personnes en situation de handicap. Leur projet, ce sont des innovations techniques pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap en matière de mobilité par exemple, de communication, de confort ou de bien-être. Par exemple, améliorer un fauteuil roulant ou améliorer une prothèse esthétique ou domotique. La particularité, c'est que ces solutions sont réalisées pour et par les personnes concernées elles-mêmes. Bonjour Charlie Dreano.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Comment ça marche, My Human Kit ?
Comment ça marche ? Mettons que demain, il vous arrive un accident, je ne vous le souhaite absolument pas. Vous vous retrouvez en situation de handicap, vous avez un problème de mobilité. Moi, je vous invite à passer la porte du Human Lab, qui est à Rennes. C'est le lieu où on accueille, à Rennes. Et en fait, vous passez cette porte-là et vous devenez porteuse de projet. C'est-à-dire que vous quittez la posture de personne en situation de handicap, vous devenez porteuse de projet, vous rencontrez nos salariés, nos bénévoles. Il y a une petite communauté qui se met en place autour de vous, qui vous favorise une rencontre. Et vous faites l'apprentissage des nouvelles technologies et vous construisez avec nous votre aide technique qui va venir solutionner votre quotidien. L'aide technique, c'est le terme voilà, un peu technique pour parler de tous ces objets qui vont faciliter l'apprentissage du quotidien, le déplacement, la rencontre,
alors,
le langage, tout quoi.
Quels sont ces objets justement ?
Alors il y en a plein aujourd'hui. En 2019 par exemple, c'est une quarantaine de projets qui ont été développés au sein de l'association.
C'est beaucoup.
Donc ça va de quelque chose très pratique comme un chauffe-main pour quelqu'un qui a très peu de mobilité sur un gros fauteuil roulant. On va avoir besoin d'un chauffe-main pour pas avoir froid quand on est dehors. Et puis on va avoir quelque chose pour des gens qui ont peu de mobilité, un appui-tête rotatif électronique qui va permettre d'accompagner le déplacement de la tête pour quelqu'un qui ne peut pas le faire. Et ces aides techniques, voilà, c'est des choses qu'on peut trouver dans le commerce parfois trop chères ou alors qui sont difficiles d'accès. Et ben nous, on essaye de les rendre accessibles en apprenant à le faire soi-même. Et la petite particularité que je peux me permettre de rajouter maintenant, c'est qu'en fait, les personnes, elles le font pour elles-mêmes, mais en le documentant, en expliquant, en réalisant une notice qui est ouverte à tous, elles
donc
le font aussi
duplicable.
Pour les autres. C'est
eh oui.
Duplicable, c'est réplicable et c'est adaptable à chaque besoin.
Adaptable à chaque besoin. Vous supervisez la fabrication numérique de ces solutions. C'est dédié à la santé, finalement.
Oui, c'est dédié à
tout
la santé.
Tout est dans le domaine
en fait,
de la santé.
C'est accueillir des personnes valides et non valides dans un espace où on crée.
Les personnes qui les accueillent, ce sont des spécialistes, ce sont des bénévoles.
Alors, il y a vraiment plein de profils.
Quels sont les
on a une
de
équipe
profils.
De salariés,
ouais.
Donc on est 8 salariés. Il y a des profils qui viennent de la mécanique, de la musique, vraiment très très variés, des ingénieurs.
Et je crois même qu'il y a une solution que vous avez mis au point, des prothèses conçues sur des imprimantes 3D pour jouer de la batterie.
Absolument, absolument.
Donc,
absolument.
Ça peut aller chercher
là-dessus,
très loin.
Je vous invite à regarder la prochaine diffusion de Taratata, le 20 décembre, je me permets de... Je
sais pas vous, si avez, c'est vous avez
de faire
raison,
une pub,
oui,
voilà,
oui,
je vous invite,
vous avez raison.
Je vous invite à regarder ça sur la batterie, ce sera le meilleur exemple.
En tout cas, c'est un bon teasing pour qu'on regarde.
Voilà.
Thomas, notre coach.
Ouais, bah,
bonjour Thomas.
Bonjour, on se connaît un petit peu avec Charlie.
Ah bon
c'est une association
vous
vraiment
connaissez
remarquable.
Connaissez tout le monde, Thomas.
Ouais. On s'était croisés sur une remise de prix au printemps dernier.
C'est
bon.
Ça. Et ouais, c'est une association remarquable parce que nous qui nous intéressons beaucoup à l'open source, au partage, au côté participatif, My Human Kit est en plein dedans. Et du coup, j'avais une question par rapport à ça. Ça nous touche, nous, on est jeunes, etc. On est bien branchés tech, tout ça. Mais comment ça se passe pour un homme ou une femme de 60 ans qui a un handicap et qui n'a pas forcément l'appétence pour les outils numériques? Comment elle vient à votre association? Comment elle se débrouille en fait? Est-ce qu'elle est livrée à elle-même avec les tutos? Ou alors est-ce qu'on l'accompagne
non,
fabriquer sa prothèse?
Non, nous, c'est pour ça que la technique est une part importante de notre boulot. Mais la deuxième partie, c'est la question de l'accueil. Parfois, on met derrière le mot bienveillance, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais voilà, c'est la capacité à accueillir, à proposer une personne d'être bien à l'endroit. On commence par le café, un mot gentil. Et voilà, après, il y a un socle commun chez tout le monde, c'est qu'il y a une passion pour le bricolage. Et ça n'a pas d'âge, quoi.
Voilà, mais on n'est pas obligé d'être un grand spécialiste
non,
de la bricole pour venir dans l'assaut.
Au contraire, tous les profils sont les bienvenus.
Et justement, tous les jeudis, depuis bientôt plus de 3 ans, non ?
Ouais, 3 ans.
Vous avez My Human Kit qui accueille les personnes en situation de handicap. Voilà, ouais. C'est le jeudi soir, c'est ouvert à tout le monde.
C'est le jeudi en journée, c'est ce qu'on appelle les Open Labs. Voilà, en fait, c'est la journée où nous, on va accueillir, on va permettre à tout le monde de rencontrer la communauté, les bénévoles, les partenaires et les personnes en situation de handicap qui sont là.
Alors, on l'a dit, vous existez depuis 2014, vous avez été lauréat de la France s'engage en 2017.
Absolument, on était avec eux hier encore.
C'est quoi maintenant la suite pour vous? Parce que vous avez un certain recul.
Ouais. Bah, la suite, c'est des nouveaux partenariats. On était encore ce matin avec Ariane Group, qui est bon, voilà, les lanceurs de fusées. En fait, on a fait un événement avec eux le mois dernier.
Vous êtes lauréat de plein d'associations, notamment aussi tout juste le lauréat de la fondation MMA aussi.
Aussi, absolument, c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés avec Thomas.
Donc, alors, quelles sont les perspectives quand on...
Continuer à bosser dans ce sens-là, continuer à fabriquer des aides techniques avec les personnes, continuer à accueillir. Et puis, nous, on a besoin de nouveaux partenaires. On revendique le fait d'avoir une activité d'intérêt général, c'est-à-dire que les personnes, elles apprennent, elles rencontrent, elles développent des compétences.
Et ailleurs que Rennes aussi,
c'est un travail de cet endroit ailleurs.
Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, là-dessus, nous, on travaille avec des entreprises qui ont envie d'installer des Human Labs chez elles. On travaille avec d'autres structures, d'autres activités. On a aujourd'hui une petite dizaine de Human Labs qui sont installés en France et dans le monde, en Afrique francophone notamment.
Ça s'appelle My Human Kit, lauréat donc 2019 de la Fondation MMA. Merci beaucoup
avec
d'être venu nous présenter ce que vous faites, parce que c'est important. Et en plus, c'est la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées.
Au revoir.
Il est midi 57.
Europe 1.
Restez avec nous, on va s'intéresser aux innovations outre-mer et vous allez voir qu'il y en a. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge, si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. On s'intéresse ensemble aujourd'hui aux innovations qui se développent aussi à des milliers de kilomètres de l'Hexagone. Car c'est en ce moment le concours Innovation Outre-mer et nous avons voulu aller voir ce qui se passe dans les territoires ultramarins. Direction tout d'abord la Guadeloupe avec vous, Sébastien Luissin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, vous êtes le président fondateur de MyDTech, ça s'écrit MYDITE. Et vous créez des objets connectés, alors dédiés aux agriculteurs d'outre-mer. Il faut dire que vous avez grandi à Mornalot, dans le centre de l'île, et que vos parents sont agriculteurs.
Exactement. Donc en fait, j'ai créé la société en 2016. Simplement, j'ai fait des études dans le numérique et l'informatique, et j'ai grandi dans le monde agricole. Et l'idée de la société, c'est de vraiment créer les solutions numériques pour les agriculteurs, pour simplifier leur quotidien et optimiser vraiment tout ce qui est production et rentabilité des exploitations.
Oui, parce que vous connaissez bien les difficultés du métier, mais comment est née l'idée justement de mettre vos compétences en matière de numérique au service des agriculteurs ?
En fait, c'est suite à une énième difficulté, on va dire, économique, au niveau de l'exploitation familiale, on va dire. Et c'était suite à une discussion avec un ami qui est dans l'électronique. Et on se demandait, j'ai toujours observé en fait, si vous voulez, ce qui se faisait au niveau de l'Hexagone dans tout ce qui est numérique et agriculture, donc notamment au niveau des vignes et la céréale. Et on s'est demandé pourquoi en fait toutes ces technos-là n'arrivent pas sur nos territoires et d'une manière générale dans les régions tropicales.
Et alors la réponse c'est quoi ?
La réponse c'est que ces technos-là ne sont pas forcément adaptées aux cultures locales et au relief et au climat. Simplement. Et elles sont très chères aussi. Donc, on est sur d'exploitation moyenne de 4 à 10 hectares, alors que dans l'Hexagone, c'est plutôt 30-50.
Voilà. Donc, vous avez du coup sillonné les terres, vous avez rencontré les professionnels pour essayer de vous adapter à leurs besoins.
Voilà. Donc, de 2016 à 2018, beaucoup de rencontres avec des agriculteurs, la Chambre d'agriculture, l'INRA aussi, l'Institut national de recherche agricole, pour identifier. En plus, les sujets que j'avais déjà identifiés, mais parler avec eux et voir déjà s'ils étaient prêts à cette transition numérique et si c'était pertinent pour nous de continuer dans cette voie. Et ensuite, on a recueilli pas mal d'infos et travaillé dans ce sens-là.
C'est comme ça que vous avez, par exemple, créé un collier d'activité pour les bovins. Vous l'avez testé, je crois, en 2018. La commercialisation est prévue l'année prochaine ?
La commercialisation est prévue l'année prochaine. C'est un collier, c'est un de nos premiers produits qu'on a amélioré depuis pas mal, qu'on a développé.
Il sert à quoi ?
En fait, le collier d'activité, c'est un collier qu'on met autour du coup des bovins, mais aussi de tout ce qui est caprin, ovin, donc les brebis, les cabris, tout ça. L'idée, c'est de géocaliser les bêtes, mais surtout de récupérer des constantes type température et faire de la détection de mouvement en fait, sur les bêtes aussi, pour pouvoir faire de la prédiction de maladies, identifier le positionnement, intervenir en amont en fait.
Thomas,
Mon petit doigt m'a dit que vous veniez de temps en temps à Station F. C'est juste où...
On a Station F depuis 2017, donc on a des bureaux à Station F depuis 2017.
Donc
et
vous
des
faites
bureaux,
la navette.
Et je fais la navette, c'est ça.
Ok, exactement. Et du coup, ma question, c'est quoi la différence de vie entre l'entrepreneur parisien et l'entrepreneur chez vous sur l'île ? Et comment ça se passe en fait ? Quelle différence vous voyez entre la vie entrepreneuriale parisienne, le réseau, la ruche que c'est, et chez vous ?
Disons que chez nous... Alors, C'est un avantage et un inconvénient, on est un peu plus isolé. C'est un avantage dans le sens où ça nous oblige à faire beaucoup plus de nous dépasser quasiment en permanence pour affronter les différentes difficultés liées à la distance. Mm-hmm. Parce qu'en fait, tout est centralisé à Paris en termes de techno. Mm-hmm. Donc, il faut pas mal se déplacer, se tenir au courant. Rien que pour l'approvisionnement en pièces, pour concevoir les colliers, etc., c'est compliqué. Ça nous coûte beaucoup plus cher, du coup, forcément. Mais voilà, les différences sont là. Après, comme je vous dis, ça nous oblige à inventer, innover, créer de nouvelles choses et à faire mieux. Et du coup, ce qu'on développe chez nous, comme on dit, qui peut le plus, peut le moins. Donc, parce que généralement, ce qu'on arrive à développer chez nous et qui fonctionne, fonctionne très bien ailleurs.
Voilà. D'ailleurs, vous avez aussi développé une borne connectée météo adaptée aux microclimats tropicaux, parce que là aussi, c'est une particularité. Vous allez, en tout cas, c'est l'ambition, développer ce système partout, Mayotte, La Réunion, la Guyane.
Ben, c'est ça. Alors, le cœur de notre système, c'est une borne météo connectée qui nous remonte, c'est la base, hein, parce que bon, on a pas mal d'algorithmes qui tournent et qui s'appuient sur les datas météo pour donner, pour faire du conseil. Et le cœur de notre techno, c'est cette borne météo qui nous permet de pallier aux difficultés des zones, des sols tropicales et des micro-climats, exactement. Et justement, ouais, on a déployé en Guadeloupe, on va à très court terme déployer en Martinique, Guyane, Mayotte, Réunion, et très prochainement, on l'annoncera en Afrique.
Ah oui, parce qu'il y a, un réel marché pour vous qui s'ouvre, hein, là,
voilà,
pour le coup.
Voilà, c'est ça, exactement.
Elisabeth, toujours dans l'agriculture, vous avez trouvé une autre entreprise avec des jeunes agriculteurs à engager.
Oui, ça s'appelle les jardiniers créoles. Ils sont jeunes et ils ont leur propre agroferme tropicale posée sur les flancs de la montagne Pelée. Ils travaillent avec un groupe de petits fermiers producteurs basés sur l'ensemble de la Martinique. Et eux, ils sont donc quotidiennement engagés dans une démarche d'agriculture saine, locale, sans pesticides, sans intrants chimiques, avec des techniques innovantes de la permaculture tropicale héritée de la tradition orale et du savoir-faire qu'ils échangent avec le monde entier. Ça existe depuis 2 ans, ça s'appelle donc les jardiniers créoles.
On reste ensemble sur Europe 1 et on voyage aujourd'hui.
Il est 13h18.
Europe 1.
Maintenir les personnes à domicile, c'est possible grâce à des solutions intelligentes développées en Guadeloupe par ID9 Systèmes. À tout de suite.
Quelles innovations pour l'outre-mer, et ça dans tous les domaines. On en parle cet après-midi dans La France Bouge avec vos invités, Raphaël Duchemin. Si vous nous écoutez dans les dom-toms, écrivez-nous sur Twitter, hashtag Europe 1. Ou alors, si vous avez des questions pour nos invités, appelez-nous au 3921.
Et c'est souvent les expériences personnelles, hein, des choses qu'on a vues, qu'on a entendues, qu'on a pu constater, qui nous donnent envie de nous lancer. Je crois que c'est votre cas, Jean-Laurent Lugien, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Tout commence par une rencontre, j'ai envie de dire. Une rencontre avec un certain Pépito, un artiste qui peint avec sa bouche et qui est célèbre aux Antilles.
Oui, Pépito, il faut savoir qu'il était tétraplégique. Et à ma rencontre avec lui, j'ai été très ému parce qu'il était dans une situation au niveau de son équipement où il avait pas, on ne lui proposait pas grand-chose. Puisque déjà c'était cher, tout ce qui est équipement pour les personnes en situation de handicap. Donc j'ai décidé en fait de l'accompagner, donc je me suis mis à réfléchir des solutions qui soient abordables pour lui, et afin qu'il puisse contrôler son environnement et qu'il puisse avoir plus d'autonomie.
Oui, plus d'autonomie, c'est vraiment ce qu'il vous demandait, en tout cas ce qu'il revendiquait. Et vous, vous aviez vécu avec vos grands-parents, donc vous les aviez vus en perte d'autonomie.
Ça
vous
avait... perte d'autonomie, j'ai dû m'occuper d'eux, et ils étaient aussi atteints de maladies dégénératives, donc jusqu'à la fin de leur vie. Donc cette histoire personnelle m'a beaucoup marqué, et ça a conditionné mon parcours scolaire et tout ce que je fais avec l'humain.
Oui, parce qu'à l'époque, vous n'êtes pas du tout dans cette partie-là. Vous êtes dans le traitement des déchets funéraires, mais vous vous dites qu'il faut faire bouger les choses. Donc en 2016, vous vous lancez.
Oui, parce que à la suite, c'est pas seulement Pépito, j'ai rencontré un autre cas encore. Donc,
c'est le point de départ, Pépito.
C'est le point de départ, et je me suis dit il faut vraiment trouver une solution. Donc j'ai réfléchi sur un écosystème. Et qui permettrait en fait de donner de l'autonomie à que ce soit aux seniors, que ce soit aux personnes en situation de handicap.
Alors vous avez créé beaucoup de choses, hein. Vous avez créé Vena, qui est un robot qui permet de détecter quand une personne âgée, par exemple, ne bouge pas, s'il y a une sorte d'inactivité suspecte.
Oui, en fait, Vina fait plus de l'étude de comportement. Donc, il va s'habituer aux habitudes de vie du senior. Et nous, on va comparer les points d'activité et où il n'y a pas d'activité. Et en fonction de ça, on va lancer des alertes.
Donc, il est en cours d'expérimentation en ce moment ?
Il est en cours d'expérimentation. On a répondu à un appel à projet à la CGSS. Donc, qui nous a permis en fait, de le placer chez une trentaine en fait, de bénéficiaires. Et on est en train de faire les tests.
Puis, vous ne vous êtes pas arrêté là parce que vous avez réfléchi à un surmatelas connecté. Qu'est-ce qui fait de spécial ce surmatelas ?
Le surmatelas connecté, il relève des données physiologiques, le rumeur cardiaque, les neurésies. On a rajouté quelque chose de plus, la prévention des escarres. Donc, toutes ces données qui sont relevées, donc, elles sont croisées, elles sont analysées, toujours dans le but de faire des alertes.
Vous avez passé d'ailleurs une convention avec un hôpital, hein, je crois.
Oui, je ne sais pas si je peux le citer, l'hôpital de Capesterre. L'hôpital de Capesterre. Donc, on a mis une chambre thérapeutique, donc qui nous permet en fait, grâce à cette chambre, on va commencer des essais cliniques.
L'année prochaine,
et ça nous permettrait en fait de valider en fait toutes les données qu'on remettra.
Et puis, vous avez aussi développé un patch pour les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Ça aussi, ça vous tenait à cœur.
Oui, en fait, dans l'hôpital, il y a eu souvent des fugues de patients. Donc, on a couplé le système de géolocalisation avec des caméras intelligentes. Donc, on essaie de prédire la fugue avant qu'elle se passe.
Que dit notre coach Thomas Hurier ?
J'ai des questions de curiosité. C'est des technologies très pointues, très spécifiques, pour des cas assez particuliers. Est-ce que vous pensez qu'il peut ou il va y avoir un usage grand public de vos outils? On le voit dans la santé, là, Apple qui fait ses montres, qui étudie le rythme cardiaque, ça atteint vraiment monsieur et madame tout le monde. Est-ce que vous pensez, parmi vos technologies, il y a un marché vers des applications encore plus grand public?
Oui, il faut savoir qu'en France, 7 Français sur 10 en fait, apprécient les objets connectés. Et aujourd'hui, on réfléchit sur une vulgarisation en fait, de nos produits, non pas seulement pour la santé, mais pour aussi, puisque on a été approché par l'État, en fait, c'est pour les solutions pour... On va essayer de faire un test pour les prisonniers, pour savoir en fait comment ils se comportent, pour est-ce qu'ils sont en liberté.
Elisabeth, vous avez trouvé aussi, parce qu'on est en train de parler d'innovations très différentes, on est dans le monde agricole, on passe dans le médical, vous avez trouvé une application spéciale pour alerter les secours d'outre-mer.
MyCities, vous connaissez peut-être, c'est une application qui est destinée aux commerçants, aux professions libérales, et elle est liée à un bracelet connecté qui permet aux utilisateurs d'envoyer facilement un SOS, une alerte en cas de danger imminent, important, directement aux services locaux d'urgence, comme la police, les pompiers, le SAMU. C'est une appli qui a été mise en place depuis 2017.
Et puis, vous avez trouvé aussi dans l'environnement, dans la gestion du tri des déchets, là, il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train de se passer
outre-mer. Mais oui, énormément. Il y a une appli qui s'appelle ULY, U2LY. Elle existe depuis tout juste une année. Et elle nous accompagne dans la gestion quotidienne des déchets. Par exemple, elle peut apporter des conseils pour optimiser le prix, le tri, indiquer les différents lieux de collecte à proximité en fonction des types de déchets qu'on présélectionne, hein, comme par exemple on présélectionne le plastique, le papier ou les déchets verts. Elle aide aussi à trier les lieux de tri à proximité, et elle permet aussi de signaler des incidents environnementaux en temps réel, comme une épave ou une décharge sauvage. Vous avez aussi TriCenter, situé en Martinique. C'est une start-up qui propose une nouvelle génération de collecteurs de déchets recyclables. Eux, ils ont développé des automates autonomes pour faciliter le traitement de ces déchets.
On reste ensemble et on voyage aujourd'hui, on part outre-mer et on parle innovation.
Il est 13h27.
Europe 1.
Partager des choses avec ses fans, c'est important. Pour les célébrités, c'est possible grâce à Croda, une plateforme née à La Réunion. A tout de suite.
Dans la France Bouge cet après-midi, on parle des innovations mises en place par nos invités pour les Outre-mer. Si vous souhaitez réagir, c'est simple, hein, vous nous appelez au 3921. Vous pouvez également nous écrire via Twitter, hashtag Europe Ravel.
Quand on baigne dans la musique depuis tout petit, il y a forcément un moment où on y revient. Bonjour Vigilo Haro.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Croda. Alors ça s'écrit C-R-O-W-D-A-A.
Ouais.
Et alors, vous avez grandi, vous, à La Réunion, à Saint-Joseph, et vous avez même fait partie, je crois, des premiers rappeurs de Lille.
Alors, premier rappeur, en tout cas, j'ai fait partie de la génération des années 90, des MC des années 90. Avant ça, je jouais du Maloya dans le Caz de Saint-Philippe. Hein. C'est les traditions, les percussions traditionnelles. Et c'est clair que dans les années 90, je faisais du rap. Là où mes amis ont continué à faire de la musique, sont devenus les producteurs d'aujourd'hui et de la musique qui fait danser la jeunesse de La Réunion. Moi, j'ai passé 10 ans à Paris. Donc,
oui. Vous avez créé des startups.
Oui,
samedi,
j'ai fait une thèse.
Puis ensemble, ça veut dire ensemble en créole.
Aussi.
Bon. Et puis vous quittez tout en 2014, qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe ce qui se passe souvent quand on monte des startups, il se passe un désaccord avec des associés, une histoire un peu classique. Il se passe que dans ces cas-là, quand on est en restart, comme on dit, on retourne un peu
en
à ses...
redémarrage.
On retourne un peu à ses habitudes. Mais moi, j'ai tout simplement, j'ai pas quitté mes amis de toujours, donc je me suis retrouvé en studio avec les copains à regarder un peu ce qui se faisait. Et j'ai réalisé, pour vous dire les choses, que j'ai des amis qui sortent un morceau qui font 1 million de vues en un mois. Moi, je reviens de là avec une expérience, un regard un peu orienté business. Mm-hmm. Et je me dis, c'est fou, ils font 1 million de vues et ils ne savent pas qui a fait les vues. Qui est Jacqueline qui a écouté 60 fois le morceau? Ils n'en ont aucune idée. Ils ont des analytics, donc mm-hmm. qui leur dit que 30% de clics sont des femmes, 40% viennent de Paris, etc. Donc ça vous donne des démographics.
Des indications, voilà, mais on ne connaît
marketing.
Pas nos fans, finalement.
Tout à fait,
c'est
qui servent au marketing. Mais vous ne savez pas qui écoute l'émission tous les jours, qui clique sur le replay tous les jours. Et cette personne-là, aujourd'hui, elle mérite un égard, mais qu'on n'est pas capable de lui donner parce qu'on ne sait pas qui elle est.
Voilà. Donc vous mettez au point, en 2015, une appli de lecture de musique qui nous dit combien de fois le titre a été écouté et par qui.
C'est, l'idée vient de là. L'idée est qu'il faut absolument que le créateur ait une connaissance de sa fanbase et de ses fans. Et le fan, il faut absolument que si je suis le plus grand fan de Bob Marley dans l'océan Indien, que quelqu'un le sache. Et aujourd'hui, personne ne le sait. On a beau être fan, ça ne change rien, ni pour soi, ni pour les autres. Donc j'ai monté la première version tout seul. Je suis allé voir les copains de l'époque, Manimal, je Mélange Nation, je cite quelques noms, les gars sont contents, c'est parti jusqu'à Kaf Malbard. Les gens m'ont aidé. Run It, qui ensuite a été notre premier client, Vijay Wax. Ce sont tous les gens qui font les millions de vues d'aujourd'hui. Et ils m'ont donné leur matériel, souvent en pré-release, en exclusivité, pour que je puisse tester Crowda.
Et vous êtes parti aux États-Unis, à Los Angeles, pour développer ? C'était plus facile ?
Alors, dès que j'ai pensé que j'avais quelque chose qui tenait la route, entre guillemets, j'avais un prototype qui fonctionnait avec une application qui était déjà sur la route, je voulais valider l'hypothèse qui était, est-ce que c'est que dans ma tête ou est-ce que ça a un sens pour quelqu'un d'autre ? Qui est du métier, voilà. C'est dans ce contexte-là que je suis allé à Los Angeles. Mon objectif était de trouver les validations sous différentes formes. La première, c'est que j'ai rencontré la personne qui m'a dit « Ok, je fais l'aventure avec toi, Jimmy Thomas », qui a été vice-président de la Motown, qui a été A&R, c'est les gens qui recrutent les artistes et qui les développent. Il a été producteur avec des Grammy Awards, etc. Il m'a fait rencontrer son mentor, Clarence Avant, qu'on appelle « The Black Godfather ». Et c'est là donc que j'avais cette validation en disant ok, on a beau faire des millions, Universal non plus ne connaît pas qui écoute Chuck Berry 30 fois tous les week-ends. Voilà. Donc à partir de là, on a travaillé ensemble. L'histoire est beaucoup plus longue, mais c'est
ça. Bien sûr, bien sûr. Et ça marche depuis janvier 2019, c'est ça ?
Alors il y a eu, on a tout ça a commencé en 2016, donc il y a eu plusieurs itérations.
Voilà.
On a lancé alors depuis le début de l'année, on a lancé nos fan clubs, musique, politique, presse, pour les associations aussi. Donc différents types de fan clubs. Ça a débordé sur le côté de musique parce que ce que je viens d'expliquer sur la connaissance de la fanbase, c'est vrai pour les gens qui font de la radio, c'est vrai pour les gens qui ont des associations, qui sont des hommes politiques, ils ne savent pas. Aujourd'hui, quand on a mis quelque chose sur les plateformes de distribution, on ne sait pas qui a écouté, qui a consommé. Donc on a lancé le produit Fan Club depuis le début de l'année. Aujourd'hui, par exemple, pour parler de Run It, qui est un des plus gros labels de La Réunion, Run It, je pense que c'est le seul label au monde qui sait qui sont ses 11 000 plus grands fans. de façon géolocalisée, il peut repartir vers ses fans avec de l'email, du text message,
des invitations, push,
des push notifications. Bah, il sait à qui il faut donner les accès backstage pour les concerts, ça a déjà été fait. Et voilà, donc ça continue. Je veux dire, c'est, bah, je crois que c'est une première mondiale. On est en train de faire la même chose pour le fan club, cette fois de la musique de La Réunion et de l'Océan Indien, par une application qui va s'appeler Vavang, qui veut dire un peu ivresse en créole. C'est un arbre. Mais voilà, c'est ça que ça témoigne, c'est de ça dont ça témoigne. On est en train de lancer le fan club. On a lancé le fan club d'une personnalité politique, Erika Baredj. On est en train de lancer. On est très impliqué dans les municipales.
Elisabeth, c'est finalement le fan club 2.0 parce que il y a 20 ans, on écrivait des lettres à son idole, en donnant notre adresse, notre âge, en espérant recevoir une réponse, pourquoi pas une invitation. Donc c'est ça, vous avez transformé le fan club.
Depuis le début et de cette première discussion que j'ai eue avec Jimmy lorsqu'on a travaillé, oui, en fait, on a juste repris. Moi, je suis de la génération du club Dorothée. Mmh. Et on a repris. On a juste réorganisé.
On
est un peu tous là. Merci Dorothée. Et donc, oui, on a juste repris la structure, en fait. Il faut, pour toute personne qui a une audience, il faut savoir qui nous écoute. C'est important.
Alors voilà. Thomas, qui est-ce qui achète vos jeans? Vous savez qui est le plus gros acheteur de jeans de 1083?
Nous, on livre les jeans quand ils commandent sur Internet. Donc, on fiche un peu tout le monde. De fait, on a leur téléphone, leur adresse. Mais c'est vrai que pour ceux qui nous suivent sur Facebook et qui ne sont pas encore clients, par exemple, ben on ne sait pas qui ils sont. Là, du coup, ça prend la forme d'une application qu'on télécharge. Par exemple, je deviens fan de vous. Comment je fais? Je télécharge votre application et vous me suivez parce que j'ai votre application sur mon téléphone?
Alors, je vais reprendre en disant que vous êtes mon client. Donc, si vous êtes mon client, que vous avez une audience, je vous offre un tableau de bord dans lequel vous montez votre contenu, vous me donnez votre logo et nous, on s'occupe de la publication
d'application. Mais si moi, je suis fan de Thomas, et je veux le suivre, qu'est-ce que je fais?
Donc, à partir du moment où j'ai l'application de Thomas dans les stores, Thomas, il clique sur un bouton et ça partage sur les réseaux sociaux. Et tout, maintenant, il n'a qu'à mettre une heure à l'avance ou deux jours à l'avance des pré-releases ou du matériel un peu qui convient aux fans, en fait, des informations qui conviennent aux fans. Et les fans vont passer des réseaux sociaux vers l'application. C'est ce qu'on a observé.
On reste ensemble et on vous attend, bien sûr.
Il est 13h37.
Europe 1.
Restez avec nous, 39-21 et Twitter. Nous parlons innovation dans les territoires ultramarins aujourd'hui. Et vous allez voir que ça bouge. À tout de suite.
Dans la France bouge cet après-midi, on parle des innovations pour l'outre-mer et vous nous en parlez, Raphaël Duchemin, avec vos invités.
Oui, nos invités, Sébastien Luissant, président fondateur de MyDTech, Jean-Laurent Lugien, fondateur d'ID9 Systèmes et Vigile O'Haraud, fondateur de Crowda, on dit Crowda, c'est ça?
On dit ça.
Et dit à la française tout à l'heure. Notre coach, c'est Thomas Hurier, fondateur des Jeans 1083. Évidemment, Elisabeth Assayag est à mes côtés. Justement, Elisabeth, une question, l'emploi, c'est un problème majeur dans les territoires d'outre-mer. C'est aussi pour ça que c'est important l'innovation.
Mais c'est hyper important et heureusement que vous êtes là messieurs et il faut qu'il y ait des entreprises parce que d'après un rapport de l'INSEE, les départements d'outre-mer ont au minimum un taux de chômage deux fois supérieur à celui de la métropole. Mayotte, c'est le territoire le plus touché avec un taux de chômage à 35%. Il se distingue nettement des autres territoires avec une situation qui s'est vraiment dégradée là depuis 4 ans. D'après l'INSEE, donc c'est notamment lié à la forte croissance démographique. Et puis ensuite, on a des taux de chômage importants. Par exemple, en Martinique, 18% de taux de chômage.
Justement, vous avez eu du mal à vous installer, que ce soit en Guadeloupe ou à La Réunion. Qui veut répondre? Comment est-ce que vous avez fait pour trouver cet écosystème, pour pouvoir monter votre entreprise?
Alors... Il n'y a pas de... Sébastien Lucin. Pas de mal à s'installer, du mal à se développer, par contre. Après, l'écosystème, il est, je pense, le même que partout. Hein. Après, il faut juste faire preuve de plus de stratégie, on va dire, pour mobiliser tout le monde. Voilà.
Même chose pour vous à La Réunion?
Moi, ce qui me vient à l'idée, là, c'est alors je vois deux axes. Un, on a des développeurs de grande qualité, on oublie de le dire, et souvent moi qui travaille à Paris ou à San Francisco, etc., on se fait, à mon avis, une mauvaise idée, il y a un implicite qui est faux sur la qualité des développeurs qu'on peut avoir dans les territoires. Donc il y a des gars qui tapent fort, et on a la chance de pouvoir s'appuyer sur eux. Ensuite, moi, ce que je remarque, c'est qu'au niveau, je trouve que on a affaire, moi, mon expérience, c'est que j'ai affaire à des interlocuteurs, souvent au niveau institutionnel, qui ne croient pas assez dans le territoire. donc qui ne sont pas assez mobilisés. J'ai monté donc, des
boîtes
à Paris.
Problème d'image peut-être.
Oui, j'ai monté des boîtes. Enfin, je veux dire ma première boîte à Paris. Je vais pas nommer les interlocuteurs, mais j'avais affaire à des administrations et à des à un écosystème qui avait confiance en lui. Et c'est pas le cas, je trouve. Mmh. En ce qui nous concerne, souvent, c'est l'écosystème qui manque de confiance.
Jean-Laurent, même constat.
Je pense que je partage en fait du constat parce que nos territoires outre-mer, on est souvent, on a les mêmes problématiques. Mais c'est plus de la peur, je pense. C'est plus de la peur qu'on a en face de nous.
Mais peur de quoi?
Parce que nos interlocuteurs, souvent, par méconnaissance, ils ne comprennent pas souvent nos projets. Donc, on est écarté souvent. C'est pas qu'on n'est pas bon. Hein. Mais c'est sûrement par méconnaissance. Donc, je pense qu'il y a une éducation à faire et on s'emploie à le faire, nous tous, de notre côté. On s'emploie à faire cette éducation.
Thomas, ça vous fait réagir ?
Ben oui, parce qu'en fait, ce qu'ils décrivent avec la distance qu'ils vivent, on vit un peu la même chose quand on est en province.
Oui.
Bon, moi, j'ai la chance d'être dans la Drôme, donc c'est à 2 heures de TGV de Paris, donc je peux faire l'aller-retour dans la journée, je viens souvent. Mais pour des territoires un peu moins connectés, ben, ils vivent exactement la même chose avec un problème de réseau, un problème de compétences, de crédibilité, de confiance en lui. Et du coup, ben, ça met comme une petite chape de plomb sur tout l'écosystème qui fait qu'il ne se développe pas autant qu'il pourrait se développer quand il est à Paris. Donc, à mon avis, il y a vraiment un enjeu culturel à essayer de se révéler, d'exister, d'essayer.
Ce qui est dommage, justement, c'est ce passage obligatoire par Paris.
Oui.
Parce que bon, du coup, vous êtes en province, donc ça va, en termes de budget.
Oui, prendre un billet d'avion pour venir...
prendre un billet d'avion chaque mois
de Guadeloupe,
pour venir,
c'est plus compliqué.
Pour venir à Paris, c'est un peu compliqué, mais c'est quand même, jusqu'à maintenant, quasiment obligatoire. Parce que moi, c'est mon passage à Station F qui a multiplié par, je dirais presque 100, le développement de la société, parce que les contacts sont là. Comme on est à Paris, ben, du coup, on attire l'attention beaucoup plus que si on est... en Guadeloupe, basé, on dit que oui, on est en Guadeloupe, on fait des super choses technologiques, etc. Mais quid du... comme c'est loin, voilà, les interlocuteurs ont du mal à percuter, voilà.
Jean-Laurent, vous êtes en autofinancement. On a parlé tout à l'heure de tous les projets que vous avez menés. Vous essayez de faire une levée de fonds, je crois.
Oui. Donc, pour les essais cliniques, et puisque nous, on utilise en fait beaucoup d'intelligence artificielle dans le produit. Et donc, il nous faudra développer...
notamment le matelas connecté, puis le robot Vela.
Et l'environnement intelligent. Donc, il nous faudra lever des fonds pour ça.
Elisabeth, c'est vrai qu'il y en a beaucoup des innovations, on ne peut pas toutes les citer, non, mais je voudrais qu'on s'arrête, par exemple, qu'on aille du côté de Tahiti, tiens.
Alors, Tahiti, je ne sais pas si je vais bien prononcer, hein. Seed Out Fenua. Ça se dit comme ça? Non? Je sais pas. C'est une application qui permet de financer sa compensation carbone. Hein. C'est une nouvelle manière de compenser son empreinte carbone et de préserver la biodiversité. C'est assez ludique. Vous avez la possibilité de planter, par exemple, des forêts virtuelles. Chaque graine virtuelle semée sera plantée sur de vrais parcelle à l'endroit que vous aurez choisi. C'est une appli qui est toute jeune, qui a 2 mois. C'est pour ça qu'on les mentionne. Seed Out Fenua, F-E-N-U-A.
Et vous avez vu qu'il y a énormément d'innovations outre-mer. C'est en ce moment le concours Innovation Outre-mer en partenariat avec BPI France et Impact Partners. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour nous faire voyager et nous montrer qu'il y a des gens qui font des choses partout en France, y compris à des milliers de kilomètres.
Merci.
Il est 13h46. Europe 1. Reste avec nous. Elle est née du côté d'Annecy, 1796. Elle connaît une renommée mondiale, la fonderie Paccard et l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Est-ce que vous reconnaissez ce son, Céline ?
Les cloches.
Les cloches, mais pas n'importe lesquelles. Elles ont été fabriquées par la fonderie Paccard. Bonjour Philippe Paccard.
Bonjour.
Vous avez reconnu ce son ?
Oui, bien sûr.
C'est celui de Montmartre.
C'est
Sacré-Cœur.
Le Sacré-Cœur.
Eh oui, parce que ça fait 220 ans que dans votre famille, en bordure du lac d'Annecy, on fabrique, on façonne, on fait naître des cloches, des carillons, pour qu'elles aient une sonorité irréprochable. L'histoire commence en 1796, on est à Quintal, en Pays Savoyard, et l'église est fermée.
un pays savoyard qui vient tout juste de devenir français, puisque les Savoyards, à cette époque, ont rejoint la France. Et donc, l'église est fermée, les cloches ont été déposées, il n'y a plus de cloches, et le maire du village veut se marier, et à cette époque, dans un monde chrétien, eh bien, on ne peut pas se marier sans passer devant le curé, et donc passer à l'église. Il va voir l'évêque d'Annecy, lui demande un curé, l'évêque d'Annecy lui répond, vous aurez un curé lorsque vous aurez une cloche dans l'église, ouais. Pour savoir si la motivation était bien là. Alors il revient voir ses habitants, les habitants lui disent, écoute, t'es le maire, hein, fais quelque chose. Alors il va chercher un fondeur de cloches itinérant qui se trouve à côté de Genève, à Carouge en Suisse. Celui-ci va venir à Quintal et il va chercher un assistant.
Et cet assistant va être le maire.
Ce sera le maire Antoine de Quintal, Paccard. Antoine Paccard.
Alors, il va travailler, Antoine, avec Jean-Baptiste Piton. Il va vivre des péripéties quand même, hein, pour installer le curé du village et la cloche dans son clocher. Et à sa mort, ce sont ses fils qui vont reprendre le flambeau et l'usine est du coup transférée à Annecy-le-Vieux.
Alors, pas tout de suite. Sur la deuxième génération, effectivement, ses fils reprennent le flambeau et commencent à faire beaucoup de cloches puisque la révolution étant terminée, il est temps de reconstruire. 80% du patrimoine campanaire a disparu en France et en Savoie, donc il faut reconstruire. Donc, c'est une nouvelle époque pour les cloches qui est importante. Et donc, la deuxième génération va être à Quintal et c'est seulement la troisième génération, Georges, qui est d'ailleurs le fondeur de cloches de la fameuse cloche La Savoyarde, la plus grosse cloche de France, qui bougera, qui déménagera la fonderie de... En fait, il va le faire avec son père et ils vont bouger la fonderie de Quintal à Annecy-le-Vieux. L'objectif étant de se rapprocher de la gare d'Annecy pour faciliter l'exportation des cloches par le chemin de fer.
Georges avec Francis et Victor, hein, c'est ça,
voilà, qui prennent la suite, donc la troisième génération.
Est-ce qu'on peut dire que c'est eux qui ont commencé à donner cette dimension mondiale finalement à la fonderie Paccard?
Alors effectivement, le 19e est marqué par beaucoup de cloches qui partent déjà à l'étranger, donc on commence à exporter beaucoup de cloches. Cette exportation est rendue possible par en fait des prêtres missionnaires, savoyards, mais pas seulement savoyards, français, qui sont dans les colonies françaises du 19e, donc l'Asie, l'Afrique, l'Amérique, et qui construisent des églises, et ils ont besoin de cloches. Donc ils font appel à leurs connaissances, et c'est comme ça que nous commençons à exporter des cloches. Effectivement, la troisième génération, Georges, Francisque et Victor, vont exporter beaucoup de cloches et vont apprendre à fabriquer des gros bourdons comme celui de la Savoyarde, le nom donné à cette cloche qui est installée au Sacré-Cœur. 1891, et sa date de coulée.
10 000 cloches qui vont être fondues, notamment celle-ci. Il sort quelque chose comme à l'époque, 7 à 800 cloches chaque année, c'est ça?
Oui, alors sur cette période-là, la troisième génération, le nombre de cloches était extrêmement important. Au début du XXe siècle, il y avait plus de 150 employés à la fonderie Paccard. C'était la première entreprise de la ville d'Annecy avec les forges de Cran. Et l'activité était assez forte. Alors le XXe siècle marque une nouvelle étape.
Oui.
On va développer les carillons, c'est-à-dire des ensembles de cloches accordées qui vont permettre de faire de la musique. C'est assez technique, assez complexe. Il va nous falloir faire de nombreuses recherches, hein, environ une trentaine d'années avant d'avoir la totale maîtrise et d'ouvrir de nouveaux marchés, aussi bien pour la France, avec la réalisation de tous les grands carillons français sont des carillons Paccard. On a fait 50 des 60 plus grands carillons de France.
Oui, mais on vous trouve aussi à Washington, on vous trouve à Montréal, on vous
et
trouve
on est présent aux
Tokyo.
États-Unis, on est présent dans le monde entier, au Japon, on est présent effectivement
avec
partout.
Des sons différents.
Avec des sons différents, donc chaque cloche donnant une note différente permettant de faire de la musique.
Thomas, notre coach.
Oui, bah c'est remarquable. Hein. Ouais. Moi, je suis amoureux des boîtes qui durent et des boîtes familiales. Il y a tellement d'entreprises, on est tellement dans le court terme là, que je trouve ça vraiment extraordinaire. Je trouve l'entreprise assez moderne en plus, parce que vous faites des visites guidées. Enfin, il y a toute une démarche de tourisme industriel qui est vraiment contemporaine. Et je me demandais, tout bêtement, c'est tellement un savoir-faire rare, il n'y a pas d'école pour de fabricants de cloches. Donc comment vous faites pour recruter, pour former vos équipes?
Alors pour la partie fonderie, on les forme sur le tard. On peut effectivement partir avec des personnes qui ont des collaborateurs qui ont déjà des études de fonderie, mais il faut quand même beaucoup apprendre à l'entreprise. Par contre, pour ce qui est de la partie accordage, musicalité de la cloche, c'est vraiment une formation interne. Et puis, la projection de l'entreprise Paccard, alors si je passe les années et qu'on arrive rapidement à notre époque, les nouvelles générations, il a fallu se renouveler. Par exemple, pour l'Europe, dans un monde qui se déchristianise avec beaucoup moins de cloches. Certes, on vend des cloches pour les églises à l'exportation, mais plus beaucoup pour la France. Les carillons ne sont pas nécessairement des cloches pour les églises. Elles sont plutôt des cloches pour les beffrois ou pour éventuellement des municipalités. Mais on s'est projeté dans le XXIe siècle avec des nouveaux concepts, des nouveaux produits.
Le projet Ars Sonora, notamment.
Le projet Ars Sonora, qui est une
art
sculpture.
L'art du son en latin.
L'art du son en latin, c'est un nom que nous avons donné pour définir en fait des sculptures musicales qui sont réalisées par des artistes, designers, qu'ils deviennent des objets monumentaux, dont une partie de cette sculpture est réalisée par des cloches, dont les notes ont été choisies, elles ont toute une taille différente, elles vont permettre de créer une atmosphère, un supplément d'âme dans nos villages, dans nos cités. Dernière réalisation à Châtel, avec un superbe ensemble de 25 cloches qui est... Je vous invite à les découvrir.
Évidemment. Et la huitième génération est déjà là pour prendre la relève. C'est l'entreprise Paccard, la fonderie Paccard. C'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler. Thomas Urias était notre coach. Merci. Elisabeth Céline, à demain.
À demain.
C'était Raphaël Duchemin. Dans un instant, on retrouve Christophe Ondelat sur Europe 1.